Disons que la batterie roule.
Oui.
Le rideau se lève.
Bien.
Toi, tu vas te préparer par là.
Oui.
Moi, je vais par là. Et le spectacle commence.
Ah, ah non.
Les radios francophones publiques présentent Charles Aznavour, Sur ma vie, une émission de Francis Legault.
Moi, je crois qu'il ne faut jamais abandonner le vocabulaire de la jeunesse. Et les gens qui m'intéressent, et les gens qui me retiennent, parce qu'il y en a qui ne me retiennent pas, il y a un moment où je m'en vais, ce sont ceux qui ont gardé le regard de l'enfance. Je ne sais pas si vous avez eu des amis comme ça, vous avez des amis qui gardent un regard naïf et enfantin, et brillant, et heureux, ou triste. Et il y en a d'autres qui, tout d'un coup, se durcissent, et on sent que ces gens sont devenus terriblement adultes. Et je n'aime pas les adultes. J'aime l'enfance jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans. Mais je n'aime que l'enfance. Il y a des jeunes qui sont adultes et qui ne m'intéressent pas non plus.
Le besoin d'écrire, le rôle du chanteur, le feu des planches, The Last Chanteur parle de son métier. Bref, Charles Aznavour pour faire une jam.
Moi, certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante pa-pa-pa-pa-pa-pa. Car quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire une jam. En perdant l'éclair d'un instant, la notion du lieu et du temps, on oublie tous ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond, que fait-on de mal en chantant? En bras de chemise parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux mi-clos, car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos joies, nos ivresses, dans ces rythmes se reconnaissent. Faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent. De tout peut parler notre claque pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100%, on chante pa-da-di-da-da-da-da. Au petit jour sur le trottoir, les traits tirés, le teint blafard, comme à regret on se sépare en se disant rempli d'espoir. Salut les gars, à un de ces soirs pour faire une jam.
France Inter.
Je suis né ici. Ce sont mes parents qui étaient d'ailleurs déplacés. Alors, ils ont tout fait pour que l'on ne souffre pas de cela. J'ai très peu entendu parler du génocide, juste ce qu'il fallait, vous comprenez. On ne m'a pas embêté en disant « chez nous, on faisait ceci, il faudrait faire ça ici, on nous a laissé vivre notre vie ». Ce qui fait que je vis parfaitement cette espèce de petite différence qu'il me reste. Et cette petite différence, on la sent dans mon écriture. Parce que j'ai quand même,
en dehors du fait que j'ai bien étudié, bien assimilé les poètes français, il reste en moi une sorte d'orientalisme qui m'a permis à une époque d'être différent des autres. Moins aujourd'hui, parce que l'Orient est venu de plus en plus envahir l'Occident. Je parle de l'art, hein, moi je parle pas d'autre chose.
Charles Aznavour, 1956.
Que ce soit une chanson à moi ou une chanson d'un autre, une belle chanson m'amène un très grand plaisir, une sérénité que je recherche. La grande, grande joie, je ne la trouve que dans la chanson. Et puis alors, la musique symphonique me donne autre chose. J'ai l'impression de ne plus exister quand j'écoute de la musique symphonique. J'ai l'impression d'un corps mort, baigné de notes. Je me couche, je ne peux pas écouter Bach debout. Ça m'est absolument impossible. Comme lorsque je lis un livre, il faut qu'il me donne quelque chose. Il y a des tas de gens que je ne peux pas lire. Je lis très peu d'ailleurs, parce que si je lis beaucoup, je ne peux plus écrire. Je trouve une perfection qu'on ne trouvera jamais dans la chanson, et ça m'ennuie. Ça m'empêche d'écrire, ça m'empêche de dormir. J'ai l'impression que je fais une chose vaine. Oui, la chanson est vaine à ce moment-là. À côté de ce qu'ont écrit certains auteurs, enfin, énormément d'auteurs, la chanson est une toute petite chose. Alors là, j'arrive devant un mur. Et ça m'empêche de travailler. D'ailleurs, mon éditeur me dit de ne pas lire. Il préfère que je ne lise pas parce que vraiment, je suis très malheureux lorsque je vois un texte, par exemple un texte de Gide, je suis très très malheureux. Ça me fait plaisir de le lire, mais en même temps, j'ai l'impression de n'être plus rien du tout. Et tout de même, je crois que dans notre métier, il faudrait qu'on ait l'impression d'être un petit peu quelque chose, si on veut que les autres nous prennent au sérieux.
Comme un policier enquêtant pour un crime qui fouille l'indice en suivant sa pensée. Je cherche le souffle et je guette la rime. Je cerne la phrase et questionne l'idée. Je traque le mot, construis la métrique et passe à tabac mon inspiration. Puis mets les menottes à la phonétique pour essayer de faire une chanson. Comme un souteneur qui joue sur sa chance en frappant l'accord, j'effraie mon piano et fais leur affaire aux réminiscences et claque la note et bat le tempo pour faire chanter une mélodie. Je place un point d'orgue et change le ton, puis je fais ma basse enfin sur l'harmonie pour essayer de faire une chanson. Comme un procureur tenace et implacable, j'attaque à huis clos cette œuvrette de rien. Et puis avocat qui plaide non coupable, je joue sur les mots en m'aidant du refrain. Je mets tout mon art dans ma plaidoirie et quand libre enfin, tous deux ils s'en vont, le mot et la note s'unissent à vie pour essayer de faire une chanson.
L'écriture dépasse la pensée. Il ne faut pas oublier ça. Bon, ceux qui vous diront « Ah oui, mais quand j'étais jeune, j'ai dit ceci parce que cela », je crois qu'ils mentent beaucoup. L'écriture dépasse la pensée. L'écriture dépasse même l'intellect, dépasse la culture. Moi, avec un minimum, petit minimum de culture, j'ai écrit mieux que ce que je savais. Voilà une chose qui m'a surprise dans ma vie. Quand on me dit « Mais où c'est que vous trouvez les idées de vos chansons ?» Ben, je dis « Elles sont dans l'air. » Les idées sont dans l'air. La preuve en est, c'est que d'un coup, on écrit une chanson sur un sujet, et au bout du monde, il y en a un autre qui a écrit sur le même sujet, sans qu'on ait eu aucune communication. Donc, il y a quelque chose qui est toujours dans l'air. On doit être surpris par des événements qui s'inscrivent dans notre esprit. On est quand même très réceptif quand on écrit. Et cette réception fait que l'on va plus loin que ce que l'on connaît, que ce que l'on fait. Mon vocabulaire écrit est bien meilleur que mon vocabulaire parlé.
Charles Aznavour, la différence entre poésie et chanson.
Je suis un monsieur qui écrit et qui souvent a des phrases poétiques. J'ai un langage qui est un petit peu poétique, mais je ne suis pas un poète. Le poète, il écrit des poèmes. Je ne sais pas écrire un poème, je n'ai jamais su en écrire. On m'a demandé de fournir un livre de poésie, j'étais absolument incapable de le faire. Je ne sais pas, parce qu'à partir du moment où je commence à écrire, ma déformation professionnelle, car j'ai une déformation professionnelle, me ramène à la chanson. Car automatiquement, j'entends une musique. Bonne ou mauvaise, mais j'entends une musique.
Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, la petite rouquine au teint de lait, que je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qu'il en ait passé du temps sur moi qui joue toujours perdant. En attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse, et je suis aimé des clients.
Je me suis rendu compte très vite que les chansons d'amour étaient des chansons éloignées de la personne pour lesquelles on les chantait.
France Inter.
Vous êtes aussi jolie, mon bel ange blond, c'était toujours vous. Et la personne ne s'impliquait jamais. Et je me suis dit, mais c'est ridicule, parce qu'on doit faire comme au cinéma, comme en littérature, comme en sculpture, même en sculpture et en peinture, le peintre est dans sa peinture. Et les auteurs n'étaient pas dans leurs chansons. On avait toujours l'impression qu'ils écrivaient pour les autres. Et d'ailleurs, ils écrivaient pour les autres. Trainet a commencé à dire « je chante », mais il a eu beaucoup de chansons qui sont « vous qui passez sans me voir », etc., etc. Il y a eu très peu de chansons qui étaient à la première personne. Et j'ai voulu, moi, raconter la vie, mais j'ai jamais pensé qu'on penserait que c'était la mienne. Parce qu'on a toujours des lignes qui sont autobiographiques. Une chanson n'est pas obligée d'être autobiographique. Il y a des phrases qui le sont.
Par la peur de te perdre et de ne plus te voir, par ce monde insensé qui grouille dans ma tête, par ces nuits sans sommeil où la folie me guette, quand le doute m'effleure et tend mon cœur de noir. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime, par le temps que je prends pour ne penser qu'à toi, par mes rêves de jour où tu règnes en idole, par ton corps désiré de mon corps qui s'affole, et l'angoisse à l'idée que tu te joues de moi. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime, par le froid qui m'étreint lorsque je t'aperçois, par mon souffle coupé et mon sang qui se glace, par la désolation qui réduit mon espace, et le mal que souvent tu me fais malgré toi, par la contradiction de ma tête et mon cœur, par mes 20 ans perdus quand toi je réalise, par tes regards lointains qui parfois me suffisent et me font espérer en quelques jours meilleurs. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime, par l'idée que la fin pourrait être un début, par mes joies éventrées, par ton indifférence, par tous les mots d'amour qui restent en souffrance, puisque de te les dire est pour moi défendu. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis mon amour.
En 1960.
dans cette loge de l'Alhambra, je vois un piano, ce qui est une chose, c'est assez curieux, mais c'est quand même très rare de voir un piano dans la loge vedette de l'Alhambra.
Vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui viennent dans leur loge au dernier moment. J'arrive le premier et je pars le dernier. Je suis là avant la première personne qui rentre dans ce théâtre. Alors pour ça, il faut absolument que j'aie tous mes accessoires, que je me sente chez moi. Il faut un piano, il faut la télévision, il faut une radio, il faut un pick-up, enfin il faut tout.
Et il vous arrive de composer comme cela en attendant de passer sur scène ?
Oui, oui, parce que je suis toujours en train de pianoter pour mon plaisir et parfois une mélodie vient sous mes doigts. Alors à ce moment-là, je la note.
Est-ce qu'il y a une chanson particulièrement connue qui soit née comme ça entre deux représentations ?
Il faut dire que je crois que toutes les chansons sont nées comme ça parce que le tour de chant que je présente actuellement à l'Alhambra est un tour de chant que j'ai écrit à l'Alhambra durant mon dernier passage.
Là, il y a deux ans.
Oui, ce qui a été le plus dur, c'est d'attendre pour les chanter.
Les années 60, en répétition à l'Olympia.
Qu'est-ce qui se passe avec l'orgue ?
Oh, oh là là,
c'est mort.
Il faut savoir, mais moi, je ne sais pas. C'est ça. La recette.
J'ai donné deux fois la note et ce soir, je pourrais plus.
Charles Aznavour, vous mangez avant de monter sur scène ?
Jamais, je ne mange pas de la journée. Je prends mon petit déjeuner et c'est tout. Parce que je crois qu'on ne peut pas chanter la misère et la peine le ventre plein. Je crois qu'on doit revenir en arrière. Quand j'ai débuté, je chantais pour pouvoir manger, finalement. Et c'est ce qui me donnait cette sorte de force et d'agressivité. Je ne pourrais pas être agressif et fort en scène. Je crois que l'agressivité est une chose importante pour un chanteur. C'est cette agressivité qui donne le tout d'un spectacle. Je ne mange pas et j'ai pas de bijoux. Moi, je crois qu'on entre en scène pauvre. Et la scène vous enrichit déjà au départ.
De galère en gala, à Paris, en province. De scène d'opéra, en spectacle de rue. De fabuleux contrats, en cachet plus que mince. Pour nous, quoi qu'il en soit, le rêve continue. Ce métier, c'est le pire et c'est le meilleur. On a beau s'en défendre, il nous tient dénouante. Que l'on soit comédien, danseur ou que l'on chante, ce métier c'est toujours ce qui nous tient à cœur. Ce métier, il fait mal comme il fait rêver. Et du temps des cerises à être ou ne pas être, que l'on soit débutant ou déjà passé maître, au plus haut de l'affiche ou à peine cité, il est notre patrie et notre champ d'honneur. Du vieux conservatoire ou enfant de la balle, notre seul horizon est au fond d'une salle, notre soleil n'est jamais qu'un coup de projecteur. Ce métier qui tient tous nos sens en éveil, d'échecs retentissants en triomphale route, qui nous gonfle d'orgueil ou nous détruit de doute. Ce métier est le seul jardin de nos merveilles. De nuit de dépression, après que la critique, à tort ou à raison, nous traîne dans la boue. De moments d'émotion, en instant de panique, on entre en religion, à l'heure où tout se joue. Ce métier de crève-faim, de va-du-pied, que ce soit à l'écran, sur scène ou bien en piste, il faut pour le tenter être un rien utopiste, car il fait peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Ce métier qui peut nous anoblir parfois, commandeur à Paris ou sœur en Angleterre,
les Sept-Ors, les Césars, les Victoires ou Molière, c'est toujours le public, au fond, qui les octroie. Fier sous les quolibets, humble sous les bravos, faussement protégé par le mot de Cambronne, émouvant, hilarant, en forme ou bien la folle, mais déchiré de trac, au lever du rideau. Ce métier n'est pas facile à assumer, bâti sur le succès, il rend tout vulnérable. Mais bien que sans mémoire, et bien qu'impitoyable, il reste le plus beau, car c'est notre métier. Il reste le plus beau, car c'est notre métier.
Alors vous avez écrit, parlant de Piaf, que ce qui vous rapprochait, c'était votre goût et votre conception identique de la chanson. Alors quelle est la conception ?
D'abord, le texte est important. Ensuite, il faut savoir lire entre les lignes. Ensuite, il faut être au service de l'auteur et du compositeur, sans oublier sa propre personnalité. Ensuite, il faut aimer les choses qui touchent directement le public. Et ensuite, il faut chanter les chansons comme si tout nous était arrivé. Alors, c'est une conception importante, tout ça. Il ne faut pas être détaché d'une chanson. On ne peut pas échanter une chanson et se regarder la chanter, ou s'écouter la chanter. Souvent, je dis d'un chanteur, il est bien, mais il s'écoute chanter. Et ça se sent.
Ce que vous dites vous assimile un peu au comédien, Charles Aznavour.
Mais Piaf était une comédienne de la chanson, je suis un comédien de la chanson. Liza Minnelli est une comédienne de la chanson. Il y en a qui ne font que chanter. Il y en a qui croient jouer la comédie parce qu'ils se soulèvent le col et qui disent « il fait froid ». Nous n'avons pas d'accessoires sur scène, donc nous ne pouvons pas faire les mouvements naturels en montrant au public que nous avons pris une fourchette, une cuillère, une salière ou qu'on a déplacé une table. Bon, il faut donc donner cette impression en chantant. Alors là, on devient un comédien de la chanson.
Avec l'intervieweur Pierre Bouteiller, Charles Aznavour se souvient de Miss Tinguette.
Moi, je ne sais pas qui m'a dit, c'est peut-être vous-même d'ailleurs, que vous étiez pratiquement sûr de savoir comment une chanson allait marcher. Si elle était en majeur, ce n'était pas gagné. En mineur, c'était gagné.
Dans ma voix.
Oui.
Oui, dans ma voix, bien sûr.
Le mode
mineur. J'ai une voix mineure. Même si je chante une chanson en majeur, on dira elle doit être en mineur. Et c'est vrai.
France Inter.
Vous connaissez mon histoire de Miss Tinguette ?
Non, mais...
C'était merveilleuse. Alors, Miss Tinguette nous demande un jour une chanson à Rocher à moi, et on lui amène une chanson, le couplet était en majeur, et le refrain était en mineur, et elle nous fera « Mes enfants, mettez tout en majeur », et parce que le majeur, ça remonte les joues, et le mineur, ça les descend.
Une bonne chanson pour Charles Aznavour.
C'est une rencontre. C'est une rencontre entre un texte et une musique. Il n'est pas obligatoire que le texte soit génial, pourvu qu'il soit bon, pourvu qu'il y ait un bon titre, pourvu qu'il y ait des phrases que l'on a envie de retenir, et une musique qui chante à l'oreille. Il y a le troisième personnage, c'est l'interprète. L'interprète qui peut être un interprète particulier, qui lui apporte une dimension différente, particulière. Parfois, c'est la chanson qui fait la dimension du chanteur, et parfois, c'est le chanteur qui fait la dimension de la chanson. Lorsque Piaf chantait Monsieur Saint-Pierre, qui n'était pas une chanson qui était faite pour être populaire, elle lui avait apporté une telle dimension que la chanson est devenue ce qu'elle est devenue, vous comprenez ? Bien sûr, ce n'est pas Hymne à l'amour, bien sûr, ce n'est pas La vie en rose, mais Edith avait l'intelligence de chanter et la chanson populaire et la chanson moins populaire, et la chanson un peu plus élaborée. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. D'abord parce que par la chanson populaire, on attire un public, et petit à petit, par les autres chansons, dans le tour de chant, on lui apprend des mots, des phrases, des choses. Bon, j'ai présenté Je me voyais déjà à mon temps, qui a dit les chansons sur le métier n'ont jamais marché. Au revoir. Bon, j'ai présenté J'ai bu à mon temps, qui a dit « Ah non, moi, c'est pas une chanson qui pourrait marcher. » C'est Georges Elmer qui l'a chanté. Bon, j'ai présenté « Jouer les dimanches » à Piaf. Elle l'a refusé en disant oh, « J'entrais pas une chose pareille. » Et elle l'a chanté quand même ensuite. C'est ça. on a des chansons qu'il faut imposer de toute manière. Et dans mon tour de chant, donc tu te laisses aller, on m'avait dit tu vas pas chanter ça. Comme ils disent, on m'a dit qu'on va pas chanter ça. Quand on parle de moi, on dit ah oui que c'est triste Venise, la Bohème, etc., etc. On ne parle jamais les autres chansons. C'est les autres chansons qui font le plus grand succès dans le spectacle. C'est non, je n'ai rien oublié. C'est comme ils disent. Ce sont ces choses-là qui font que le spectacle a une assise. C'est un monument, le spectacle, à ce moment-là. Les autres sont des chansonnettes. Il faut les chanter. J'en chante. En plus, en seconde partie, je donne ce qu'on appelle les chevaux de cavalerie. Hein. Ben, la mama, c'est triste Venise, je me voyais déjà. Tout ça, c'est en seconde partie. C'est la cavalerie, ça. C'est ce que j'appelle, moi, ma descente aux enfers. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les chansons nouvelles. Moi, ce que j'aime, c'est montrer quelque chose de nouveau. C'est le complexe de l'enfant, le complexe de l'enfant à Noël, vous voyez ? Il attend, il s'endort, et puis le matin, il se lève, il court à la cheminée, il trouve les jouets et il montre ses jouets à tout le monde. Moi, j'ai fait des jouets que je vais montrer à tout le monde. Mes plus grandes influences, on ne les a jamais senties. On les a senties, par exemple, chez Brassens, on l'a senti chez Brel, qu'ils avaient une influence de Trenet à leur début, moi, jamais. Et je crois que c'est pour ça que Trenet m'aimait beaucoup. Parce que c'est vrai que j'étais terriblement influencé par Charles. Je connais toute son œuvre, mais aucune chanson ne ressemble à une chanson de Trenet. J'ai dû être très orgueilleux quand j'étais jeune. Je m'en rends pas compte, mais j'ai dû être très orgueilleux de me dire non, tu dois ressembler à personne, ni dans ta manière de chanter, ni dans ta manière d'écrire. J'ai dû me le dire inconsciemment.
1962, Frank Sinatra chante à l'Olympia. Pour l'occasion, Charles Aznavour monte sur scène pour une présentation très particulière. C'était 30 ans avant que les deux crooners unissent leurs voix.
Je ne voudrais pas vous faire l'affront de vous présenter Frank Sinatra. Je sais que vous le connaissez parfaitement, votre seule présence le prouve. Par contre, lui ne vous connaît pas très très bien. Aussi, contrairement à l'habitude, si vous le permettez, plutôt que de vous présenter Frank Sinatra, je voudrais vous présenter à Frank Sinatra. Frank Sinatra, Paris vous appartient.
Pourquoi Sinatra ?
Parce que j'aimais pas tellement Sinatra avant d'abord, et que à 40 ans justement, il a totalement changé de style, et c'est d'une manière tout à fait naturelle, c'est-à-dire qu'il a pas cherché à composer un personnage musical, mais il a laissé se dégager de lui exactement ce qui était vraiment le véritable Sinatra. Je pense que le Sinatra d'avant était un Sinatra qui devait beaucoup à Crosby, à des gens comme ça. Tandis que par la suite, sa véritable personnalité est ressortie. Et que je pense que lorsque j'écoute une chanson chantée par Sinatra, c'est peut-être celui qui me donne le meilleur phrasé américain, pour moi étranger en tout cas. Et un autre point très important, Sinatra a toujours chanté de jolies chansons.
You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual.
The moment that you speak, I wanna run and play, hide and seek.
Wanna go and bounce the moon, just like a big toy balloon. Because you and I, we are just like a couple of cats. Running around the meadow, picking up all those forget-me-nots.
You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung.
Lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day. Because you make me feel so young.
You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung.
Every time I see you grin,
I'm such a cuckoo individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek.
Like to go and bounce the moon like a big fat balloon,
because you and I, we are just like a couple of tots, running around the meadow, picking up all those forget-to-be-nots.
You make me young,
you make me young.
We feel there are songs to be sung,
lots
of bells to be rung,
and a wonderful thing to be flung.
And even when I'm old,
even when I'm old and gray,
I'm gonna feel the way I do
this here day,
because
you make me feel so. You make me feel so.
D'abord, j'aime pas les flatteurs.
France Inter.
Je n'aime pas les gens qui viennent. Oh, ce soir, tu étais. Je sais comment j'étais le soir. Je sais quand je suis mieux et quand je suis moins bien. Alors, je veux pas qu'on me le dise. Pourquoi suis-je marié depuis 38 ans ? Parce que j'ai une femme qui n'est pas intéressée par ce métier. Quand il y a une chose de moi qui passe à la télévision, elle ne dit pas « on va te regarder ». Elle regarde dans le programme pour regarder ce qu'il y a à voir, et nous regardons 99 fois sur 100 autre chose. Et les gens sont surpris. Mais non, c'est du narcissisme, j'ai horreur du narcissisme. Je sais très bien ce que je sais faire, mais j'aime bien savoir ce que le public pense. Et j'ai un ami qui était là. Et il y a un monsieur qui était venu parce que sa femme l'avait sûrement forcé à venir, dans les alentours de Paris. Et à un moment donné, bon, il écoutait, il applaudissait, mais enfin, c'était pas l'enthousiasme. Et à un moment donné, je chante Ave Maria. Et il dit à sa femme, ce con-là, il me ferait croire pendant qu'il y est. Je trouve que c'est la plus belle phrase qu'on puisse raconter sur une chanson. Et puis, j'ai dit, mais il est parti comment ? J'ai dit, il est parti quoi ? J'étais l'évangéliste, ça s'était passé comme ça. Je l'avais évangélisé à Aznavouré, quoi. J'ai horreur du védétariat. C'est curieux, c'est une chose que je n'aime pas du tout. Le védétariat, c'est la négation de toute chose. Le star system, c'est la pire des choses. Le mot Star Academy, c'est à bannir. On aurait pu très bien dire Académie de la chanson, ça revenait au même. Académie des arts. Le mot, c'est pas le mot académie qui me gêne, c'est le mot star. Parce que c'est pour impressionner les gens. Alors les gens sont impressionnés. Alors on va voir des spectacles qui ne sont pas des spectacles. On voit 20 chanteurs et chanteuses qui chantent exactement la même chose. Et de la même manière, les auteurs ne se donnent plus de la peine d'écrire des chansons, ils écrivent des tubes. Alors les tubes, ce sont des tubes, ça vient ou ça ne vient pas, ça disparaît ou ça disparaît très vite. Et tout ça, ça me met en colère, voilà.
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir,
eh oui,
pour gravir,
oh oui,
le sommet. En oubliant,
oubliant,
souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Accord perdu,
j'ai couru,
assoiffé,
assoiffé,
obstiné,
vers l'horizon,
l'horizon,
l'illusion, vers l'abstrait,
l'abstrait,
en sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours. Mes emmerdes, mes amis, c'était tout en partage.
Tout.
Mes amours faisaient très bien l'amour.
Ah oui.
Mes emmerdes étaient ceux de notre âge.
Bien sûr.
Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier,
fier,
je suis fier,
fier.
Entre nous, je l'avoue.
J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai,
pas tout à fait,
pour retrouver,
je l'admets.
Mes amis, mes amours, mes emmerdes,
mes relations,
ah mes relations,
sont
vraiment sont
haut placées,
très haut placées,
décorées,
très décorées,
influents,
très influents,
bedonnants,
très bedonnants,
des gens bien,
très très bien,
ils sont sérieux,
trop sérieux,
mais près de,
tout près de,
j'ai toujours le regret de, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance.
Oui.
Mes amours avaient le corps brûlant.
Oh oui.
Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense,
bon,
avaient peu d'importance et c'était le bon temps.
Les canulars,
les pétards,
les folies, oui,
les orgies,
les jours du bac,
le cognac,
les refrains,
tout ce qui fait,
je le sais,
que je n'oublierai jamais.
Mes amis,
mes amours,
mes emmerdes.
Lorsque j'ai débuté seul, après le numéro Roche et Aznavour, je courais le contrat. Et l'impresario de Piaf m'avait présenté à une agence qui m'avait trouvé un an de contrat, dont 8 jours en Belgique. J'ai été faire ces 8 jours en Belgique, j'ai pas cassé le théâtre, ça s'est bien passé, hein, j'ai pas laissé un souvenir impérissable. On a dit, bon bah il chante, il fait comme les autres. De là, le directeur de l'établissement a envoyé une lettre à l'impresario en lui disant, depuis 25 ans que vous programmez mon établissement, vous ne m'avez jamais envoyé un artiste aussi mauvais. Ça n'était pas tellement grave, la presse n'ayant pas été mauvaise, ni bonne non plus, le succès n'avait été ni bon ni mauvais, tout à fait normal, donc en rentrant à Paris, j'étais pas tellement affecté. Mais arrivant à Paris, l'impresario m'a dit, je peux pas vous continuer à vous faire travailler, regardez la lettre que j'ai reçue. Donc pendant un an, je me suis trouvé sans travail. Et puis, les choses sont arrivées, j'ai eu des chansons qui ont fait du succès, puis mon nom a commencé à grossir sur les affiches. Et puis un jour, ce directeur, ayant oublié sa lettre, a demandé à mon impresario de m'engager. Il m'a offert donc le prix que je demandais régulièrement pour faire un spectacle. J'ai dit à mon impresario, qui n'était au courant de rien, tu vas demander le double. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, t'occupe pas de savoir, pourquoi tu demandes le double? Donc nous avons demandé le double. Et ce directeur a dit, mais je ne peux pas payer le double puisqu'il ne vaut que ce prix-là. L'année d'après, je valais le double. Donc il m'a offert le double. Et je lui ai encore demandé le double du double. Et la troisième année, je lui ai demandé le double du double du double. Et on est arrivé à un point où j'étais arrivé à la somme maximale que je pouvais toucher dans cet établissement. Et j'ai dit non, parce que je vais être payé plus. Il m'a dit, mais le prix que je vous offre est le prix que je donne à Édith Piaf. J'ai dit, moi, je veux gagner plus qu'Édith Piaf chez vous. Il m'a dit, comment vous osez dire que vous voulez gagner? Oui, je veux gagner plus qu'Édith Piaf. Et je dis, je vous dirai après la raison pour laquelle je veux gagner plus qu'Édith Piaf. Et finalement, ce monsieur m'a dit, écoutez, ça fait des années qu'on veut vous avoir, je ne peux pas me permettre de ne pas présenter Aznavour dans mon établissement, parce que j'ai toujours présenté les plus grosses vedettes françaises dans mon établissement. Il me dit, bon, bah, je vais perdre de l'argent. Et alors, comme un gros chien, vous savez, qui laisse tomber ses joues, triste, ayant bu quelques verres parce qu'il ne savait plus comment me parler, il m'a dit, bon, alors, combien voulez-vous? Et je lui ai dit, je veux 1 franc de plus qu'Edith Piaf. Et alors là, il s'est tranquillisé, et il m'a demandé pourquoi. Et je lui ai expliqué pourquoi je voulais gagner plus qu'Edith Piaf. C'était pour l'embêter, lui, et non pas pour embêter Edith Piaf.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. même le bleu des yeux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blanc des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même moins doux, ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apporte.
Lorsque certaines langues sales prétendent que Charles Aznavour est avant tout un homme d'affaires, le chanteur français sait se défendre.
France Inter.
J'ai le salaire de la journée. Le lendemain n'existe pas chez nous. Je ne suis pas retraitable. Je ne sais pas ce dont demain va être fait. Et puis j'ai des frais généraux. Ce n'est pas les frais généraux qui sont inquiétants. C'est la responsabilité des frais généraux. Je suis chargé d'armes. J'ai des gens qui travaillent avec moi, qui m'aident, et qui travaillent avec moi depuis 10, 12 ou 15 ans. Si demain je devais arrêter parce que ça ne marchait plus, ce serait sûrement plus catastrophique pour eux que pour moi. Alors il faut continuer.
Un petit blanc ? Oui, monsieur, ça vient. Oui, oui, je vous le donne, votre petit coup de torchon sur la table. Un jeu de 32 cartes, voilà, tout de suite. 3,5-3 et sans faux col. Un jambon beurre en terrasse. Deux crèmes à la une. Et deux. Tenez. Payez vos garçons. Merci.
Juin 92, associé avec Gérard Davoust, Charles Aznavour achète les éditions musicales Raoul Breton.
Eh bien, j'ai racheté l'édition Raoul Breton, qui fait, il y a Raoul Breton, Vianelli, Eddy Marton et Star Music, qui est un des plus beaux catalogues français finalement, puisque maintenant je possède toutes les œuvres de Charles Trenet, à part une ou deux, Varel et Bailly, Mireille et Jean Nohain, Dorin, le père de François, Pierre Dudan, enfin il y a plein de choses. Il bon, y a cette chanson qu'on chantait à la Libération, le chant des partisans. Il y a aussi les millions d'Arlequins. Il y a quelques chansons de Noël, Noël. Je m'aperçois tout d'un coup, ce que je suis en train de lire le bouquin, il y a 2000 et quelques titres, je m'aperçois qu'il y a aussi, y a aussi du Carco. Et c'est formidable. C'est le patrimoine, il ne faut pas laisser... Vous savez, les œuvres d'art sont protégées en France. Vous ne pouvez pas sortir un tableau sans demander l'autorisation au gouvernement. Mais vous pouvez sortir tous les catalogues de chansons sans rien demander à personne. Alors je me suis dit, je vais faire comme le gouvernement, je vais mettre un veto. Je l'ai acheté moi-même, je ne dis pas que je l'ai acheté facilement, mais heureusement il y a des banques qui m'ont suivi, et j'ai pu acheter ce catalogue, ce qui me permet aujourd'hui d'être le contrôleur d'œuvres importantes françaises qui ne partiront pas, qui ne seront pas traduites n'importe comment, qui ne seront pas jetées en pâture, ou peut-être même qui ne seront pas au fond d'un ordinateur et dont on ne s'occupe plus. Parce que le danger qu'il y a de laisser partir les catalogues français chez les étrangers, c'est que eux envoient leur catalogue en France, ils mettent un ordinateur, si vous réclamez la chanson, ils la donnent, mais ils ne font aucun effort pour la chanson en question. Et je trouve qu'il serait criminel de laisser partir les œuvres dont je vous ai parlé il y a quelques secondes.
Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je sentir mon corps bat ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Noyé dans la cohue et dissocié du bruit. Comme si sur la terre il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue.
C'est Cocteau qui a dit à votre propos, avant Aznavour, le désespoir était impopulaire.
France Inter.
Oui, oui, il a dit ça, c'est vrai.
Vous avez donc rendu le désespoir populaire.
Je crois, oui. Et puis
comme Piaf, qui vous avez bien connu, qui vous a influencé.
Elle a rendu le drame populaire. Moi, c'est le désespoir, c'était le drame. Piaf, il y avait beaucoup de morts. Les drames étaient beaucoup plus profonds que mes drames à moi. Moi, j'y suis levé au fond du café. Moi, on ne meurt pas dans mes histoires. Moi, à la fin, on reprend espoir dans mes chansons.
Tu te laisses aller, ça finit bien.
Tout, oui, mais bon anniversaire finit bien. Souvent, ça finit bien. J'aime bien donner un peu d'espoir aux gens. Je leur ai asséné un tel coup sur la tête qu'il faut quand même de temps en temps que je les fasse sourire aussi.
C'est le happy end à l'américaine. C'est l'influence de votre culture en partie un peu américaine.
C'est surtout le fait que j'ai vécu avec des peuples dramatiques et que moi je suis un optimiste. Quoi qu'on puisse en penser, je suis un optimiste et que finalement je mets toujours un peu d'optimisme dans les chansons. D'abord, il faut se dire une chose. J'étais pas fait pour réussir. Ni physiquement, ni vocalement, ni quoi que ce soit. Bon. Alors, j'ai réussi. Je crois que c'est une leçon d'optimisme pour les gens qui ont du désespoir et qui ont peur que rien ne leur réussisse dans la vie. On peut toujours dire, mais regardez Aznavour, avec le physique qu'il avait, avec la voix qu'il avait, avec les trucs qu'il écrivait, il a réussi quand même. Je trouve que c'est une belle leçon d'espoir, non ?
Certains courent après la vie, moi la vie me court après. Bien des gens font des folies, moi c'est folie de m'avoir fait. Et n'occupe aucun emploi menant une vie facile. Je ne fais rien de mes dix doigts. Je vais pêcher dans les ruisseaux, chasser dans les roseaux ou cueillir les fruits mûrs que m'offre la nature. On ne m'a pas mis sur terre pour me tuer à travailler, et goûter à la liberté et rêver.
la terre. C'est plus simple et c'est plus sain. Et si je meurs solitaire, je n'aurai pas à aller loin. Je me lave l'eau de pluie et me séchant au soleil. Je rêve à ma tendre amie. Il n'y a vraiment rien de pareil. Et quand presque à la nuit tombée, on peut se retrouver. C'est un si grand plaisir qu'on reste sans rien dire en regardant la nature. On se tient tout près, bien près l'un de l'autre. Et je vous jure que l'on ne pense qu'à s'aimer. Rêver et sourire et bailler et dormir. J'ai fait mon paradis sur la terre. Quelle appel au fond de mon cœur. Et vraiment, si c'était à
Charles Aznavour, merci pour ces 10 heures de chansons, de confidences et de souvenirs retrouvés.
Dernier épisode de la série Aznavour sur ma vie. Une production des radios francophones publiques, la RTBF, la Radio Suisse Romande, Radio France et Radio-Canada. Narration et entrevue, Monique Giroux et Francis Legault. On collaborait à cette émission, Serge de Brideau, Janine Marc Peset, Yves Buy, Jean-Claude Arnaudon et Pierre Collard-Bovy. Merci aussi à ceux et celles qui ont rendu cette série possible. Sur ma vie, une réalisation de Francis Legault, assistée de François Tremblay.